Chapitre 6. Bataille entre la mort et la nuit. L'enfant était devant cette chose, muet, étonné, les yeux fixes. Pour un homme, c'eût été un gibet. Pour l'enfant, c'était une apparition. Où l'homme eût vu le cadavre, l'enfant voyait le fantôme. Et puis, il ne comprenait point. Les attractions d'abîme sont de toutes sortes. Il y en avait une, au haut de cette colline. L'enfant fit un pas, puis deux. Il monta, tout en ayant envie de descendre, et approcha, tout en ayant envie de reculer. Il vint tout près, hardi et frémissant, faire une reconnaissance du fantôme. Parvenu sous le gibet, il leva la tête et examina. Le fantôme était goudronné, il luisait çà et là. L'enfant distinguait la face, elle était enduite de bitume, et ce masque, qui semblait visqueux et gluant, se modelait dans les reflets de la nuit. L'enfant voyait la bouche, qui était un trou, le nez, qui était un trou, et les yeux, qui étaient des trous. Le corps était enveloppé et comme ficelé dans une grosse toile imbibée de naphte. La toile s'était moisie et rompue. Un genou passait travers. Une crevasse laissait voir les côtes. Quelques parties étaient cadavres, d'autres squelettes. Le visage était couleur de terre. Des limaces, qui avaient erré dessus, y avaient laissé de vagues rubans d'argent. La toile, collée aux os, offrait des reliefs comme une robe de statue. Le crâne, fêlé et fendu, avait l'hiatus d'un fruit pourri. Les dents étaient demeurées humaines. Elles avaient conservé le rire. Un reste de cri semblait bruire dans la bouche ouverte. Il y avait quelques poils de barbe sur les joues. La tête, penchée, avait un air d'attention. On avait fait récemment des réparations. Le visage était goudronné de frais, ainsi que le genou qui sortait de la toile. Et les côtes. En bas, les pieds passaient. Juste dessous, dans l'herbe, on voyait deux souliers, devenus informes dans la neige et sous les pluies. Ces souliers étaient tombés de ce mort. L'enfant, pieds nus, regarda ses souliers. Le vent, de plus en plus inquiétant, avait de ces interruptions qui font partie des apprêts d'une tempête. Il avait tout à fait cessé depuis quelques instants. Le cadavre ne bougeait plus. La chaîne avait l'immobilité du fil à plomb. Comme tous les nouveaux venus dans la vie, et en tenant compte de la pression spéciale de sa destinée, l'enfant avait sans nul doute en lui cet éveil d'idées propres aux jeunes années, qui tâche d'ouvrir le cerveau et qui ressemble au coup de bec de l'oiseau dans l'œuf. Mais tout ce qu'il y avait dans sa petite conscience en ce moment se résolvait en stupeur. L'excès de sensations, c'est l'effet du trop d'huile, arrive à l'étouffement de la pensée. Un homme se fût fait des questions. L'enfant ne s'en faisait pas. Il regardait. Le goudron donnait à cette face un aspect mouillé. Des gouttes de bitume figées dans ce qui avait été les yeux ressemblaient des larmes. Du reste, grâce à ce bitume, le dégât de la mort était visiblement ralenti, sinon annulé, et réduit au moins de délabrement possible. Ce que l'enfant avait devant lui était une chose dont on avait soin. Cet homme était évidemment précieux. On n'avait pas tenu à le garder vivant, mais on tenait à le conserver mort. Le gibet était vieux, vermoulu, quoique solide, et servait depuis de longues années. C'était un usage immémorial en Angleterre de goudronner les contrebandiers. On les pendait au bord de la mer, on les enduisait de bitume et on les laissait accrocher. Les exemples veulent le plein air et les exemples goudronnés se conservent mieux. Ce goudron était de l'humanité. On pouvait de cette manière renouveler les pendus moins souvent. On mettait des potences de distance en distance sur la côte, comme de nos jours des réverbères. Le pendu tenait lieu de lanterne. Il éclairait, à sa façon, ses camarades, les contrebandiers. Les contrebandiers, de loin, en mer, apercevaient les gibets. En voilà un, premier avertissement. Puis un autre, deuxième avertissement. Cela n'empêchait point la contrebande. Mais l'ordre se compose de ces choses-là. Cette mode a duré en Angleterre jusqu'au commencement de ce siècle. En 1822, on voyait encore devant le château de Douvres trois pendus vernis. Du reste, le procédé conservateur ne se bornait point aux contrebandiers. L'Angleterre tirait le même parti des voleurs, des incendiaires et des assassins. John Painter, qui mit le feu au magasin maritime de Portsmouth, fut pendu et goudronné en 1776. L'abbé Coyer, qu'il appelle Jean le Peintre, le revit en 1777. John Painter était accroché et enchaîné au-dessus de la ruine qu'il avait faite et rebadigeonné de temps en temps. Ce cadavre dura, on pourrait presque dire vécut, près de 14 ans. Il faisait encore un bon service en 1788. En 1790, pourtant, on dut le remplacer. Les Égyptiens faisaient cas de la momie du roi. La momie du peuple, à ce qu'il paraît, peut être utile aussi. Le vent, ayant beaucoup de prise sur le monticule, en avait enlevé toute la neige. L'herbe y reparaissait avec quelques chardons çà et là. La colline était couverte de ce gazon marin, dru et ras, qui fait ressembler le haut des falaises à du drap vert. Sous la potence, au point même au-dessus duquel pendaient les pieds du supplicié, il y avait une touffe haute et épaisse, surprenante sur ce sol maigre. Les cadavres, émiettés là depuis des siècles, expliquaient cette beauté de l'herbe. La terre se nourrit de l'homme. Une fascination lugubre tenait l'enfant. Il demeurait là, béant. Il ne baissa le front qu'un moment pour une ortie qui lui piquait les jambes et qui lui fit la sensation d'une bête. Puis il se redressa. Il regardait au-dessus de lui cette face qui le regardait. Elle le regardait d'autant plus qu'elle n'avait pas Dieu. C'était du regard répandu, une fixité indicible, où il y avait de la lueur et des ténèbres, et qui sortait du crâne et des dents aussi bien que des arcades sourcilières vides. Toute la tête du mort regarde, et c'est terrifiant. Pas de prunelles, et l'on se sent vu. Horreur des larves. Peu à peu, l'enfant devenait lui-même terrible. Il ne bougeait plus. La torpeur le gagnait. Il ne s'apercevait pas qu'il perdait conscience. Il s'engourdissait et s'ankylosait. L'hiver le livrait silencieusement à la nuit. Il y a du traître dans l'hiver. L'enfant était presque statue. La pierre du froid entrait dans ses os. L'ombre, ce reptile, se glissait en lui. L'assoupissement qui sort de la neige monte dans l'homme comme une marée obscure. L'enfant était lentement envahi par une immobilité ressemblant à celle du cadavre. Il allait s'endormir. Dans la main du sommeil, il y a le doigt de la mort. L'enfant se sentait saisi par cette main. Il était au moment de tomber sous le gibet. Il ne savait déjà plus s'il était debout. La fin, toujours imminente, aucune transition entre être et ne plus être. La rentrée au creuset, le glissement possible à toute minute. C'est ce précipice-là qui est la création. Encore un instant et l'enfant et le trépassé, la vie en ébauche et la vie en ruine, allaient se confondre dans le même effacement. Le spectre eut l'air de le comprendre et de ne pas le vouloir. Tout à coup, il se mit à remuer. On eût dit qu'il avertissait l'enfant. C'était une reprise de vent qui soufflait. Rien d'étrange comme ce mort en mouvement. Le cadavre, au bout de la chaîne, poussé par le souffle invisible, prenait une attitude oblique, montait à gauche, puis retombait, remontait droite et retombait, et remontait avec la lente et funèbre précision d'un battant. Va-et-vient farouche. On eût cru voir dans les ténèbres le balancier de l'horloge de l'éternité. Cela dura quelque temps ainsi. L'enfant, devant cette agitation du mort, sentait un réveil et, à travers son refroidissement, avait assez nettement peur. La chaîne, à chaque oscillation, grinçait avec une régularité hideuse. Elle avait l'air de reprendre haleine, puis recommençait. Ce grincement imitait un chant de cigale. Les approches d'une bourrasque produisent de subites enflures du vent. Brusquement, la brise devint bise. L'oscillation du cadavre s'accentua lugubrement. Ce ne fut plus du balancement, ce fut de la secousse. La chaîne qui grinçait cria. Il sembla que ce cri était entendu. Si c'était un appel, il fut obéi. Du fond de l'horizon, un grand bruit accourut. C'était un bruit d'ailes. Un incident survenait. L'orageux incident des cimetières et des solitudes, l'arrivée d'une troupe de corbeaux. Des taches noires, volantes, piquèrent le nuage, percèrent la brume, grossirent, approchèrent, s'amalgamèrent, s'épaissirent, se hâtant vers la colline, poussant des cris. C'était comme la venue d'une légion. Cette vermine ailée des ténèbres s'abattit sur le gibet. L'enfant, effaré, recula. Les essaims obéissent à des commandements. Les corbeaux s'étaient groupés sur la potence. Pas un n'était sur le cadavre. Ils se parlaient entre eux. Le croassement est affreux. Hurler, siffler, rugir, c'est de la vie. Le croassement est une acceptation satisfaite de la putréfaction. On croit entendre le bruit que fait le silence du sépulcre en se brisant. Le croassement est une voix dans laquelle il y a de la nuit. L'enfant était glacé, plus encore par l'épouvante que par le froid. Les corbeaux se turent. Un d'eux sauta sur le squelette. Ce fut un signal. Tous se précipitèrent. Il y eut une nuée d'ailes, puis toutes les plumes se refermèrent et le pendu disparut sous un fourmillement d'ampoules noires remuant dans l'obscurité. En ce moment, le mort se secoua. Était-ce lui? Était-ce le vent? Il eut un bond effroyable. L'ouragan qui s'élevait lui venait en aide. Le fantôme entra en convulsion. C'était la rafale, déjà soufflant à plein poumon, qui s'emparait de lui et qui l'agitait dans tous les sens. Il devint horrible. Il se mit à se démener, pantin épouvantable, ayant pour ficelle la chaîne d'un gibet. Quelque parodiste de l'ombre avait saisi son fil et joué de cette momie. Elle tourna et sauta comme prête à se disloquer. Les oiseaux, effrayés, s'envolèrent. Ce fut comme un rejaillissement de toutes ces bêtes infâmes. Puis ils revinrent. Alors une lutte commença. Le mort sembla pris d'une vie monstrueuse. Les souffles le soulevaient comme s'ils allaient l'emporter. On eût dit qu'il se débattait et qu'il faisait effort pour s'évader. Son carcan le retenait. Les oiseaux répercutaient tous ces mouvements, reculant, puis se ruant, effarouchés et acharnés. D'un côté, une étrange fuite essayée, de l'autre, la poursuite d'un enchaîné. Le mort, poussé par tous les spasmes de la bise, avait des soubresauts, des chocs, des accès de colère, allait, venait, montait, tombait, refoulant les seins éparpillés. Le mort était massu, les seins étaient poussière. La féroce volée assaillante ne lâchait pas prise et s'opiniâtrait. Le mort, comme saisi de folie sous cette meute de becs, multipliait dans le vide ses frappements aveugles, semblables au cou d'une pierre liée à une fronde. Par moments, il avait sur lui toutes les griffes et toutes les ailes. Plus rien. C'était des évanouissements de la horde, tout de suite suivis de retours furieux. Effrayant supplice continuant après la vie. Les oiseaux semblaient frénétiques. Les soupiraux de l'enfer doivent donner passage à des essaims pareils. Coups d'ongles, coups de bec, croassements, arrachements de lambeaux qui n'étaient plus de la chair, craquements de la potence, froissement du squelette, cliquetis des ferrailles, cris de la rafale, tumulte, pas de lutte plus lugubre. Une lémure contre des démons. Sorte de combat spectre. Parfois, la bise redoublant, le pendu pivotait sur lui-même, faisait face à l'essaim de tous les côtés à la fois, paraissait vouloir courir après les oiseaux. Et l'on eût dit que ses dents tâchaient de mordre. Il avait le vent pour lui et la chaîne contre lui, comme si les dieux noirs s'en mêlaient. L'ouragan était de la bataille, le mort se tordait, la troupe d'oiseaux roulait sur lui en spirale. C'était un tournoiement dans un tourbillon. On entendait en bas un grondement immense qui était la mer. L'enfant voyait ce rêve. Subitement, il se mit à trembler de tous ses membres. Un frisson ruissela le long de son corps. Il chancela, tressaillit. Faillit tomber, se retourna, pressa son front de ses deux mains comme si le front était un point d'appui et, hagard, les cheveux au vent, descendant la colline à grands pas, les yeux fermés, presque fantôme lui-même, il prit la fuite, laissant derrière lui ce tourment dans la nuit. Chapitre 7. La pointe nord de Portland. Il courut jusqu'à essoufflement, au hasard et perdu dans la neige, dans la plaine, dans l'espace. Cette fuite le réchauffa, il en avait besoin. Sans cette course et sans cette épouvante, il était mort. Quand l'haleine lui manqua, il s'arrêta. Mais il n'osa point regarder en arrière. Il lui semblait que les oiseaux devaient le poursuivre, que le mort devait avoir dénoué sa chaîne et était probablement en marche du même côté que lui, et que sans doute le gibet lui-même descendait la colline courant après le mort. Il avait peur de voir cela s'il se retournait. Lorsqu'il eut repris un peu haleine, il se remit à fuir. Se rendre compte des faits, des points de l'enfance, il percevait des impressions à travers le grossissement de l'effroi, mais sans les lier dans son esprit et sans conclure. Il allait n'importe où ni comment. Il courait avec l'angoisse et la difficulté du songe. Depuis près de 3 heures qu'il était abandonné, sa marche en avant, tout en restant vague, avait changé de but. Auparavant, il était en quête. À présent, il était en fuite. Il n'avait plus faim ni froid. Il avait peur. Un instinct avait remplacé l'autre. Échapper était maintenant toute sa pensée. Échapper à quoi? À tout. La vie lui apparaissait de toutes parts autour de lui comme une muraille horrible. S'il eût pu s'évader des choses, il l'eût fait. Mais les enfants ne connaissent point ce bris de prison qu'on nomme le suicide. Il courait. Il court ainsi un temps indéterminé. Mais l'haleine s'épuise. La peur s'épuise aussi. Tout à coup, Comme saisi d'un soudain accès d'énergie et d'intelligence, il s'arrêta. On eût dit qu'il avait honte de se sauver. Il se roidit, frappa du pied, dressa résolument la tête et se retourna. Il n'y avait plus ni colline, ni gibet, ni vol de corbeau. Le brouillard avait repris possession de l'horizon. L'enfant poursuivit son chemin. Maintenant, il ne courait plus, il marchait. Dire que cette rencontre d'un mort l'avait fait un homme, ce serait limiter l'impression multiple et confuse qu'il subissait. Il y avait dans cette impression beaucoup plus et beaucoup moins. Ce gibet, fort trouble dans ce rudiment de compréhension qui était sa pensée, restait pour lui une apparition. Seulement, une terreur domptée étant un affermissement, il se sentit plus fort. S'il eût été d'âge à se sonder, il eût trouvé en lui mille autres commencements de méditation. Mais la réflexion des enfants est informe, et tout au plus sentent-ils l'arrière-goût amer de cette chose obscure pour eux que l'homme plus tard appelle l'indignation. Ajoutons que l'enfant a ce don d'accepter très vite la fin d'une sensation. Les contours lointains et fuyants, qui font l'amplitude des choses douloureuses, lui échappent. L'enfant est défendu par sa limite, qui est la faiblesse, contre les émotions trop complexes. Il voit le fait et peu de choses à côté. La difficulté de se contenter des idées partielles n'existe pas pour l'enfant. Le procès de la vie ne s'instruit que plus tard, quand l'expérience arrive avec son dossier. Alors, il y a confrontation des groupes de faits rencontrés, l'intelligence renseignée et grandie compare, les souvenirs du jeune âge reparaissent sous les passions, comme le palimpseste sous les ratures. Ces souvenirs sont des points d'appui pour la logique, et ce qui était vision dans le cerveau de l'enfant devient syllogisme dans le cerveau de l'homme. Du reste, l'expérience est diverse et tourne bien ou mal selon les natures. Les bons mûrissent, les mauvais pourrissent. L'enfant avait bien couru un quart de lieue et marchait un autre quart de lieue. Tout à coup, il sentit que son estomac le tiraillait. Une pensée, qui tout de suite éclipsa la hideuse apparition de la colline, lui vint violemment. Manger. Il y a dans l'homme une bête. Heureusement, elle le ramène à la réalité. Mais quoi manger? Mais où manger? Mais comment manger? Il tâta ses poches, machinalement, car il savait bien qu'elles étaient vides. Puis il hâta le pas. Sans savoir où il allait, il hâta le pas vers le logis possible. Cette foi à l'auberge fait partie des racines de la providence dans l'homme. Croire à un gîte, c'est croire en Dieu. Du reste, dans cette plaine de neige, rien qui ressemblât à un toit. L'enfant marchait, la lande continuait, nu à perte de vue. Il n'y avait jamais eu sur ce plateau d'habitation humaine. C'est au bas de la falaise, dans des trous de roche, que logeaient jadis, faute de bois pour bâtir des cabanes, les anciens habitants primitifs, qui avaient pour arme une fronde, pour chauffage la fiente de bœuf séchée, pour religion l'idole Hale debout dans une clairière à Dorchester, et pour industrie la pêche de ce faux corail gris que les Gaulois appelaient plein et les Grecs Isidis plocamos. L'enfant s'orientait du mieux qu'il pouvait. Toute la destinée est un carrefour. Le choix des directions est redoutable. Ce petit être avait de bonne heure l'option entre les chances obscures. Il avançait cependant. Mais, quoique ses jarrets semblassent d'acier, il commençait à se fatiguer. Pas de sentier dans cette plaine. S'il y en avait, la neige les avait effacés. D'instinct, il continuait à dévier vers l'est. Des pierres tranchantes lui avaient écorché les talons. S'il eût fait jour, on eût pu voir, dans les traces qu'il laissait sur la neige, des traces roses qui étaient son sang. Il ne reconnaissait rien. Il traversait le plateau de Portland, du sud au nord, et il est probable que la bande avec laquelle il était venu, évitant les rencontres, l'avait traversée de l'ouest à l'est. Elle était vraisemblablement partie, dans quelque barque de pêcheurs ou de contrebandiers, d'un point quelconque de la côte du Jesscombe, tel que Sainte-Catherine-Chape ou Swan Cree, pour aller à Portland retrouver l'ourque qui l'attendait. Et elle avait dû débarquer dans une des anses de Weston pour aller se rembarquer dans une des criques d'Eston. Cette direction était coupée en croix par celle que suivait maintenant l'enfant. Il était impossible qu'il reconnût son chemin. Le plateau de Portland a, çà et là, de hautes ampoules ruinées brusquement par la côte et coupées à pic sur la mer. L'enfant errant arriva sur un de ces points culminants et s'y arrêta, espérant trouver plus d'indications dans plus d'espace, cherchant à voir. Il avait devant lui, pour tout horizon, une vaste opacité livide. Il l'examina avec attention. Et, sous la fixité de son regard, elle devint moins indistincte. Au fond d'un lointain pli de terrain, vers l'est, au bas de cette lividité opaque, sorte d'escarpement mouvant et blême qui ressemblait à une falaise de la nuit, rampaient et flottaient de vagues lambeaux noirs, espèces d'arrachements diffus. Cette opacité blafarde, c'était du brouillard. Ces lambeaux noirs, c'était des fumées. Où il y a des fumées, il y a les hommes. L'enfant se dirigea de ce côté. Il entrevoyait à quelque distance une descente, et au pied de la descente, parmi des configurations informes de rochers que la brume estompait, une apparence de banc de sable ou de langue de terre, reliant probablement aux plaines de l'horizon le plateau qu'il venait de traverser. Il fallait évidemment passer par là. Il était arrivé en effet à l'isthme de Portland, alluvion diluvienne qu'on appelle Chess Hill. Il s'engagea sur le versant du plateau. La pente était difficile et rude. C'était, avec moins d'apprêt pourtant, le revers de l'ascension qu'il avait faite pour sortir de la crique. Toute montée se solde par une descente. Après avoir grimpé, il dégringolait. Il sautait d'un rocher à l'autre, au risque d'une entorse, au risque d'un écroulement dans la profondeur indistincte. Pour se retenir dans les glissements de la roche et de la glace, il prenait à poignée les longues lanières des landes et des ajoncs pleins d'épines, et toutes ses pointes lui entraient dans les doigts. Par instants, il trouvait un peu de rampe douce et descendait en reprenant haleine. Puis l'escarpement se refaisait, et pour chaque pas, il fallait un expédient. Dans les descentes de précipices, chaque mouvement est la solution d'un problème. Il faut être adroit, sous peine de mort. Ces problèmes, l'enfant les résolvait avec un instinct dont un singe eût pris note et une science qu'un saltimbanque eût admirée. La descente était abrupte et longue. Il en venait à bout néanmoins. Peu à peu, il approchait de l'instant où il prendrait terre sur l'isthme entrevu. Par intervalle, tout en bondissant ou en dévalant de rocher en rocher, il prêtait l'oreille, avec un dressement de daim attentif. Il écoutait au loin, à sa gauche, un bruit vaste et faible, pareil à un profond chant de clairon. Il y avait dans l'air, en effet, un remuement de souffle précédant cet effrayant vent boréal qu'on entend venir du pôle comme une arrivée de trompette. En même temps, l'enfant sentait par moments sur son front, sur ses yeux, sur ses joues, quelque chose qui ressemblait à des paumes de mains froides se posant sur son visage. c'étaient de larges flocons glacés, ensemencés d'abord mollement dans l'espace, puis tourbillonnant et annonçant l'orage de neige. L'enfant en était couvert. L'orage de neige, qui, depuis plus d'une heure déjà, était sur la mer, commençait à gagner la terre. Il envahissait lentement les plaines. Il entrait obliquement par le nord-ouest dans le plateau de Portland.